Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 10 février 2022, en direct de Washington, Idrissa Sevulia
et Nanit Salani.
Pour commencer, les titres.
6 morts, 10 blessés dans une embuscade dans le nord du Bénin.
Des discussions pour un compromis avec la CEDEAO selon la junte au pouvoir au Mali.
Le nouveau Premier ministre centrafricain, Félix Tshombe-Ouattara, reprend le même gouvernement que son prédécesseur, Henri-Marie Dondra.
Le bilan officiel du cyclone à Madagascar s'alourdit à 92 morts.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Bénin, 5 gardes forestiers et un soldat des forces armées béninoises ont été tués et 10 personnes blessées dans une embuscade mardi dans un parc naturel transfrontalier géré par le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. C'est ce qu'a annoncé hier dans un communiqué l'African Parks, une ONG de défense de l'environnement. L'attaque n'a pour l'instant pas été revendiquée, mais une insurrection djihadiste originaire du Sahel s'est étendue à certaines parties de l'Afrique occidentale côtière, notamment dans le nord du Bénin. Selon African Parks, des renforts militaires et des gardes forestiers supplémentaires ont été déployés dans le secteur.
Au Mali, les autorités ont fait savoir hier qu'elles étaient en discussion avec la CEDEAO et d'autres partenaires afin de trouver un compromis sur les échéances pour un retour des civils au pouvoir. Le point avec Michel Joseph.
Le ministère de l'administration territoriale a indiqué hier à Bamako, dans un communiqué, qu'un groupe de dialogue s'est réuni le 31 janvier. Ce groupe vise à un rapprochement de positions et à la recherche de compromis. Il est constitué de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies et d'un certain nombre de pays, dont le Ghana, qui assure la présidence en roulement de la CEDEAO, le Sénégal, qui exerce celle de l'Union africaine, ou encore la Mauritanie voisine du Mali et membre du G5 Sahel. Selon le communiqué du ministère malien, ce mécanisme consiste en un groupe de dialogue ainsi qu'un groupe de travail élargi chargé d'examiner les détails d'un calendrier de la transition. C'est un mécanisme de concertation qui est mis en place pour s'entendre sur un chronogramme consensuel. La CEDEAO, qui réclame un calendrier acceptable, a pris le 9 janvier une batterie de lourdes sanctions contre le Mali.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré hier gravement préoccupé par le changement inconstitutionnel du gouvernement au Burkina Faso le 24 janvier dans une déclaration adoptée à l'unanimité qui n'utilise pas les termes de coup d'état militaire et n'exprime pas de condamnation. Dans ce texte approuvé après de difficiles négociations, notamment avec la Russie, selon des diplomates, les 15 membres du Conseil de sécurité disent prendre note de la suspension du Burkina, de l'Union africaine et de la CEDEAO jusqu'au rétablissement rapide et effectif de l'ordre constitutionnel par les autorités militaires.
Dans la déclaration adoptée, le Conseil se dit préoccupé par l'impact négatif des changements anticonstitutionnels de gouvernement dans la région, dans une allusion au coup d'État militaire survenu au Mali et en Guinée. Il fait également part de son inquiétude face à l'augmentation des activités terroristes et la situation socio-économique désastreuse pour cette même région.
Les membres du Conseil expriment aussi leur soutien aux efforts de médiation régionaux pour résoudre la crise au Burkina Faso. Ils demandent également la libération et la protection du président Roch Marc Christian Kabore et d'autres responsables gouvernementaux arrêtés ou mis en résidence surveillée lors du coup d'État militaire.
Au Nigeria, dans l'état de Borno, fief de Boko Haram, des centaines de milliers de déplacés qui ont fui les violences sont maintenant encouragés à retourner chez elles. Toutefois, l'insécurité demeure. Le point avec Mohamed Humfa.
Les autorités nigérianes ont l'intention de fermer tous les camps de déplacés d'ici 2026. Le gouvernement veut en finir avec la dépendance à l'aide humanitaire, jugée insoutenable, et inciter la population à subvenir à ses propres besoins en retournant travailler dans les champs. Les déplacés ont le choix entre se réinstaller dans la ville la plus sûre, près de leur village natal, ou dans des zones rurales considérées comme sûres par l'armée. les attaques contre les civils ont baissé par rapport aux années précédentes, mais de nombreux témoignages prouvent que certaines zones de l'État du Borno ne sont pas entièrement sécurisées. Si les soldats occupent quelques villes, les insurgés ne sont jamais loin. D'ailleurs, dans la plupart de ces zones, les ONG refusent de se déployer, y craignant de possibles attaques. Elles ont de toutes les façons interdiction d'y fournir de l'aide. Personne n'est forcé à rentrer dans les villages, insistent les autorités, qui offrent une aide financière à ceux qui souhaitent rester à Maïdougouri. Là où il y a des difficultés, le gouvernement interviendra et apportera son aide, a récemment assuré Babagana Zouloum, le gouverneur du Borno.
En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a reconduit hier strictement à l'identique pour son nouveau premier ministre Félix Omolua le gouvernement de son prédécesseur Henri-Marie Dondra qu'il avait congédié lundi. M. Omolua conserve aussi son portefeuille de ministre d'État, de l'économie, du plan et de coopération internationale.
Plusieurs groupes de la société civile burundaise en exil ont reproché hier à l'Union européenne la reprise de son aide financière directe au Burundi alors que ce pays continue, selon eux, de piétiner les droits humains, y compris des meurtres, des arrestations arbitraires et des cas de violences sexuelles. L'UE avait suspendu en 2016 les appuis financiers directs à l'administration burundaise, y compris budgétaires, pour sanctionner des violences meurtrières lors d'une grave crise politique.
L'Union européenne avait cependant maintenu intégralement son soutien financier à la population. Elle a fait savoir que sa décision de reprendre l'aide directe dans le sillage de Washington, qui a levé des sanctions individuelles en novembre, est l'aboutissement du processus politique pacifique entamé lors des élections générales de mai 2022 qui ont porté Évariste Ndayishimiye à la tête du Burundi après le décès soudain du président Pierre Nkurunziza.
Au Cameroun, 32 personnes sont mortes du choléra entre fin octobre et début janvier. Le pays fait face à une résurgence de l'épidémie. Le point avec Rosine Mounezero.
Au 1er janvier 2022, la situation épidémiologique faisait état de 1102 cas notifiés et 32 décès, selon le ministre de la Santé, Manaouda Malaki. La précédente résurgence du choléra avait fait 66 morts entre janvier et août 2020. Face à cette résurgence des cas de choléra, pour nous prémunir et surtout pour éviter sa propagation, nous devons respecter les règles d'hygiène élémentaires, a expliqué le docteur Linda Esso, sous-directrice de la lutte contre les épidémies. Selon l'OMS, des vaccins anticholériques sûrs administrés par voie orale doivent être utilisés conjointement à l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement pour limiter les flambées et favoriser la prévention dans les zones connues pour être à haut risque. Le choléra, une maladie diarrhéique aiguë dont on peut mourir en quelques heures en l'absence de traitement, réapparaît périodiquement au Cameroun, pays de plus de 25 millions d'habitants.
À Madagascar, le bilan humain du cyclone Batsirai s'est alourdi à 92 morts selon les autorités mercredi. Il pourrait même s'aggraver alors que certains villages dans les zones les plus touchées restent coupés du reste du monde, Abdourahmane Dia.
Le Bureau national de gestion des risques des catastrophes, qui compile les éléments remontés des régions affectées, précise que le district d'Ikongo, dans l'est du pays, enregistre le plus grand nombre de morts. C'est l'hécatombe, a expliqué un député de ce district, qui précise que la plupart des victimes sont décédées à la suite de l'effondrement de leur maison. Le pays recense aussi plus de 112 000 sinistrés et 61 000 déplacés selon les autorités. De nombreuses ONG et agences de l'ONU ont déployé des ressources et des équipes pour venir en aide aux victimes de ces pluies diluviennes et des vents extrêmement violents. Le cyclone tropical a frappé Madagascar dans la nuit de samedi à dimanche sur une zone côtière de 150 km de long, peu peuplée et agricole. Il s'est ensuite déplacé vers le centre, ravageant le grenier à riz du pays en faisant déborder des rivières, ce qui fait craindre une crise humanitaire. Une vingtaine de routes sont impraticables et 17 ponts sont coupés, ce qui complique davantage les secours.
L'État de New York lève à compter de demain l'obligation du port du masque en intérieur à compter d'aujourd'hui plutôt, notamment dans les commerces, restaurants, entreprises, a annoncé la gouverneure de l'État au moment où le nombre de contaminations au COVID-19 est en chute libre aux États-Unis.
Minute Éco, Rosine Mounézéro.
La Banque européenne d'investissement et l'Union européenne ont octroyé 80 milliards de francs CFA au Cameroun pour renouveler la ligne ferroviaire de 330 km entre Bellaboite et Ngaoundéré, rapporte Investir au Cameroun. Ces ressources permettront d'améliorer la qualité de l'offre de transport en optimisant l'exploitation de cette voie ferrée vieille de 47 ans. Ce renouvellement de la voie ferrée est le deuxième projet d'envergure au cours des 20 dernières années. Le plus gros diamant noir naturel au monde, 55 facettes pesant 555 carats, a été adjugé mercredi 3,75 millions d'euros à Londres, a annoncé la maison de vente aux enchères Sotheby's. La maison de vente estime que ce type de diamant noir provient soit d'impact de météorites produisant un dépôt de vapeur chimique ou d'une origine extraterrestre. Le géant Internet américain Amazon a annoncé mercredi un accord majeur de long terme pour l'utilisation exclusive par sa division de streaming Prime Video d'un site de tournage près de Londres appartenant au célèbre studio Pinewood. Amazon n'a pas donné de précision sur le montant du contrat qui devrait porter sur 10 ans. Lorsqu'ils seront finalisés l'an prochain, les studios Shepperton seront les deuxièmes au monde par la taille avec 31 scènes de tournage, d'après Paul Goldin, le président de Pinewood Group.
À présent, les sports. Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Chelsea s'est qualifiée pour la deuxième finale du Mondial des clubs de son histoire en venant à bout d'Al Hilal 1-0 hier à Abu Dhabi. Un but de Romelu Lukaku, titularisé en pointe, a suffi au bonheur des Blues qui affronteront les Brésiliens du Palmeiras en finale samedi. En 2012, les Londoniens ont perdu leur première finale contre les Corinthians 1-0 à Yokohama. Palmeiras, dernier vainqueur de la Copa Libertadores, s'est qualifié dès mardi pour la finale en battant de grands habitués de l'épreuve, les Égyptiens d'Al Ahly 2-0. Sherdan Shaqiri n'aura passé qu'une demi-saison à l'Olympique lyonnais. Le milieu offensif international suisse s'est engagé avec le Chicago Fire, annonce le club évoluant en MLS, la Ligue nord-américaine de football. C'est par le biais d'une vidéo diffusée par le club sur son compte Twitter, dans laquelle Shaqiri s'adresse à ses futurs fans. On se voit bientôt Chicago, que le transfert a été officialisé. L'OL a précisé avoir cédé le joueur pour 7 millions d'euros. Sherdan Shaqiri, 30 ans, est arrivé à Lyon cet été en provenance de Liverpool pour un transfert de 6 millions d'euros. Il devrait faire ses débuts dans la MLS fin février, au moment où la saison débutera, avec pour mission de ramener le Fire en play-off après 4 saisons de 17 ans. L'équipementier sportif Adidas a annoncé hier qu'il a rompu le contrat le liant au footballeur français Kurt Zouma, accusé de maltraitance sur son chat après la diffusion d'une vidéo où il le frappe à plusieurs reprises. Le club de West Ham, pour lequel joue le joueur, lui a infligé une amende de près de 300 000 euros. Le joueur a immédiatement accepté l'amende et a demandé que le montant soit versé à une organisation de protection des droits des animaux, ont précisé les Hammers. La principale association de défense des animaux, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, a annoncé que les deux chats sont désormais sous sa garde. Des nouvelles des Jeux Olympiques d'hiver qui se tiennent en Chine, le Nigeria fait ses tout premiers débuts en ski de fond. Samuel Itefane représente la nation la plus titrée d'Afrique. Itefane n'a pas pu se qualifier pour les quarts de finale du sprint libre en ski de fond. Le skieur nigérien a fini à la 73e place sur les 88 participants. Temps mis 3h09min57s. Il entre tout de même dans l'histoire de son pays en tant que premier skieur nigérien à participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
De surprise, Portland a battu les LA Lakers 107-105 et Utah Jazz a battu Golden State Warriors 111-85. Toronto et Oklahoma City 117-98, Chicago et Charlotte 121-109, Cleveland et San Antonio 105-92.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les forces de défense et de sécurité ainsi que les groupes armés non gouvernementaux sont impliqués dans de nombreux cas de violation des droits humains au Cameroun. C'est ce que révèle le rapport 2021 sur la situation des droits humains rendu public mercredi à Yaoundé par les membres de la société civile. De Yaoundé, Emmanuel Jules-Tap.
Sur plus de 1700 cas de violation des droits humains répertoriés l'an dernier, le rapport énumère des meurtres, torture, viol, enlèvement, incendie de maisons et de villages ou encore de marchés commis dans la plupart des cas par les forces de défense et les groupes armés. Cyril Roland Béchon, directrice exécutive de Nouveaux Droits de l'Homme, co-auteur du rapport.
L'idée, c'est de ressortir toutes les situations et incidents, que ce soit de sécurité ou de violence, que nous avons pu relever. Parce qu'après tout, même si c'est le groupe armé non gouvernemental non étatique qui pose un acte, encore que c'est toujours à l'État du Cameroun qui doit nous rendre compte sur quelles sont les dispositions qui ont été prises par rapport à cet acte d'un groupe armé non étatique pour protéger ou pour répondre aux besoins de protection et de sécurité des populations.
Les organisations de défense des droits humains mettent également en exergue une recrudescence des décès dans les unités de police et de gendarmerie. Philippe Nanga, coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir, co-auteur du rapport.
Nous avons des cas de personnes qui ont été arrêtées, détenues et qui ont trouvé la mort, n'est-ce pas, dans ces unités de gendarmerie que nous avons documentées. C'est des cas qu'on n'avait pas observés pendant un moment, mais de plus en plus, les gendarmeries, les unités de police sont des lieux, n'est-ce pas, de torture qui aboutissent à des morts d'hommes.
Les violations des droits politiques ont été également courantes. Moussa Bello, un jeune militant du mouvement Stand Up for Cameroun, a été arrêté en septembre 2020 à Douala. Il a retrouvé la liberté le 21 janvier dernier, après avoir purgé 16 mois d'emprisonnement, accusé par le gouvernement d'incitation à l'insurrection. Il a témoigné lors de la présentation du rapport sur ses conditions de détention.
Nous avons subi des violences psychologiques, physiques. Lors de notre parcours pour aller dans notre cellule, les prisonniers de droit commun profitaient de l'occasion pour nous tabasser que vous faites quoi, vous n'avez rien à faire que de marcher, maintenant vous allez courir parce que vous êtes en prison.
Le sort de deux fonctionnaires de Médecins Sans Frontières, accusés par l'armée de collision avec les séparatistes anglophones, a également intéressé les organisations de défense des droits humains. Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile camerounaise.
On a donc fait une enquête qui a duré 3 semaines avec tous les acteurs du système des Nations Unies, tous les acteurs étatiques. Et on peut aujourd'hui affirmer que sur ce plan, on a fait mentir l'État du Cameroun sur la responsabilité des éléments de Médecins Sans Frontières qui n'ont fait que leur travail et qui n'ont pas de raison d'être en prison aujourd'hui parce qu'il n'y avait rien de collision avec les séparatistes ou les terroristes.
Le rapport annuel sur la situation des droits humains au Cameroun a été publié en présence des représentants de l'administration qui n'ont pas souhaité le commenter. Des diplomates français, suisses, américains et britanniques ont assisté à la cérémonie. Emmanuel Jumtap, Yaoundé, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En République centrafricaine, l'opposition réintègre le comité préparatoire du dialogue. Elle avait claqué la porte de cette institution en octobre dernier pour protester contre une procédure de levée d'immunité de certains de ses députés. Qu'est-ce qui a motivé ce retour et quelles sont les réactions des centrafricains? Freeman Sipila, notre correspondant à Bangui, nous en parle.
En octobre 2021, le président de l'Assemblée nationale réactive une procédure de demande de levée d'immunité des députés, chefs de l'opposition, Anissé Georges Dologuélé, Martin Ziguélé et Aurélien Simplice Zingas. En protestation, l'opposition quitte le comité préparatoire du dialogue. 3 mois plus tard, la justice met fin à cette procédure et blanchit les 3 députés accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État en lien avec l'ancien président François Bozizé. Pour l'opposition démocratique, Cette décision justifie son retour dans le comité d'organisation du dialogue. Cyriac Gounda, président de la CO2 2020, la coalition de l'opposition.
À partir du moment où cette demande de levée est levée par la note du procureur de la République, nous avons autorisé à nos quatre délégués de repartir immédiatement d'ici là. Reprendre le siège au comité d'organisation du dialogue républicain.
L'ancien Premier ministre Martin Zigeli qualifie la procédure judiciaire à l'origine de la polémique de manipulation politique.
Je pense qu'il n'est dans l'intérêt de personne, dans un pays qui se veut un état de droit, de manipuler la justice juste pour combattre des adversaires politiques. C'est le pouvoir qui a tenté de manipuler la justice. Cela est clair. Notre rôle, c'est le rôle de jouer le contre-pouvoir et de critiquer certaines actions. Et critiquer certaines actions, ça ne veut pas dire faire un complot contre son pays.
Que pensent les centrafricains du retour de l'opposition dans le comité d'organisation du dialogue? Nous avons tendu le micro à quelques bandissois dans les rues de la capitale.
Que si l'opposition ne revenait pas et que d'ici demain le pouvoir en place organise ce dialogue, peut-être qu'on peut encore fermer d'autres pistes à certains membres de l'opposition. Les bruits de vote vont continuer toujours dans ce pays, ça ne serait pas bon.
Nous sommes vraiment contents d'avoir appris que l'opposition a pu décider de retourner faire ce dialogue.
Il y a un moment pour faire la guerre et il y a un moment vraiment pour faire la paix. Et on en a marre.
S'il y a un petit problème entre nous, il faudrait qu'on cherche à régler, qu'on soit tous ensemble.
Et bien, c'est une très bonne nouvelle d'écouter que la coalition de l'opposition a fait son retour.
Plusieurs organisations de la société civile saluent cette décision et souhaitent que le dialogue en préparation soit inclusif pour une stabilité durable. Guy Julien Dakouzou, coordonnateur du GDRNE.
Leur retour, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de gagnant. Nous avons qu'un seul intérêt, l'intérêt national, l'intérêt des Centrafricains. J'ose espérer qu'avec ce retour, les choses vont aller comme il se doit pour que d'ici un peu de temps, toutes les parties prenantes puissent se retrouver pour débattre ensemble pour sortir notre pays des problèmes que nous continuons toujours de traverser.
Il est important que ce dialogue se tienne pour que les vrais problèmes de la République centrafricaine soient débattus, affirme André Nalké Dorogo, vice-président de l'Union pour le Renouveau Centrafricain URCA.
Nous voulons ce débat. Nous avons dit clairement notre ancrage, que les autres nous fassent connaître leur ancrage comme ça. Il ne s'agit pas de confrontation pour amuser la galerie. Il s'agit de confrontations idéologiques pour éviter les confrontations physiques et armées. Nous exigeons ce débat. Nous l'attendons.
Pour réussir le pari du dialogue républicain, dont la date n'est pas encore fixée, le comité d'organisation compte mobiliser un peu plus de 300 millions de francs CFA. Frimansi Pila Bongi pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
Avoir recours aux religieux et chefs traditionnels pour la résolution des conflits, notamment au Sahel secoué par l'extrémisme violent, c'est la nouvelle approche que propose la Conférence pour la paix dans le monde, un événement lancé mardi à Nouakchott, la capitale mauritanienne, qui réunit plus de 300 experts venus d'une quarantaine de pays. Notre correspondant sur place, Mohamed Diop.
La conférence pour la paix dans le monde, qui est dans sa deuxième édition, vise à impliquer les acteurs religieux et traditionnels dans la lutte contre l'extrémisme violent. Présidant l'événement, le chef de l'État mauritanien, Mohamed Oudoucher El Razouani, a appelé les participants à s'attaquer aux racines du mal.
Nous sommes convaincus que les conclusions de ces rencontres en faveur de la stabilité en Afrique et dans le monde vont contribuer par la grâce de Dieu à instaurer la paix mondiale et à promouvoir la tolérance et l'esprit d'ouverture face à la violence et à l'extrémisme.
Le même appel est réitéré par le chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Saleh Anadif.
Nous lançons un appel au Forum de Dubaï pour la paix en Afrique pour une prise en compte appropriée de la contribution des acteurs religieux et traditionnels dans la conception et la mise en œuvre des actions de prévention de l'extrémisme violent et de consolidation de la paix au Sahel et en Afrique de l'Ouest.
Ces appels semblent bien résonner chez l'initiateur de la rencontre, l'érudit mauritanien Cheikh Abdellah Ben Deya.
Cette conférence fait office de tribune pour éclairer la position de l'islam vis-à-vis de la paix et pour donner l'occasion aux religieux de lancer un appel à faire taire les armes.
Le cher estime qu'il faut aussi réactiver les circuits de dialogue traditionnels si l'on veut freiner la radicalisation des jeunes.
La solution militaire seule ne suffit pas. Il est donc temps de tourner vers la tradition ancestrale africaine de tolérance et de résolution des conflits par voie de dialogue et par la médiation, comme se faisait jadis au pied des baobabs et des palmiers.
Plusieurs autres intervenants ont exprimé le souhait de voir les religieux et chefs traditionnels réussir ce que les armes peinent jusque-là à imposer au Sahel, c'est-à-dire paix et stabilité. Mohamed Diop pour VO Afrique, Morchal.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, une année de défis pour l'Union africaine. Alors que le Congolais Félix Tshisekedi a passé le témoin au Sénégalais Macky Sall ce week-end, l'organisation continentale souhaite consolider l'intégration économique, la démocratie et mettre un terme au coup d'État. Quatre pays, le Soudan, le Mali, la Guinée et le Burkina, sont suspendus de l'Union africaine après des putschs. Quelle réponse de l'UA pour faire face à ces multiples défis? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, de nombreuses filles pleines d'ambition sont souvent bloquées par une grossesse survenue pendant qu'elles sont encore très jeunes. Déscolarisation, rejet de la famille et regard méprisant de la société sont les déboires de ces jeunes filles mères. Un reportage d'Aïcha Diarra.
L'une d'entre elles vient de confectionner son tout premier sac à main. C'est un exploit parce qu'elle est apprentie couturière. Nous sommes au centre Pro Kids qui a décidé d'accompagner les jeunes filles mères et célibataires. Aïcha Traoré en est la responsable. Et
notre vision, c'est de créer cette industrie où on a tout. On en a qui veulent faire de la checker, on va les accompagner. On veut créer une industrie de femmes fortes qui se sont relevées et qui refusent de se limiter, qui rêvent. On veut réaliser le rêve de ces filles avec elles pour toujours l'objectif que l'enfant puisse avoir un meilleur environnement éducatif.
Elles sont âgées de 14 à 20 ans pour la plupart et chacune a une histoire particulière. Tizier Grassentich a contracté sa grossesse à l'âge de 15 ans quand elle était en classe de 5e. Le père n'a pas voulu reconnaître l'enfant.
Il m'a dit non, c'est pas possible que parce que chez eux, si les enfants n'ont pas encore eu dans les enfants, c'est pas le petit que tu vas avoir en premier. Donc on a quand même interrompu la grossesse. Tellement que j'avais peur, mais je ne voulais pas rester seule dans la grossesse. Et j'ai pris tout ça de médicaments, en tout cas pour pouvoir interrompre la grossesse, mais ça n'a pas marché. C'est à 5 mois, quand j'ai vu que c'était toujours là, j'ai arrêté de prendre les moyens de garder la grossesse. Ils ne m'ont pas su au 6e mois. Il était dessus.
À 19 ans, Asumu Emira est tombé dans le piège du grand amour qui fait rêver en classe de terminale.
Bon, lui, il m'a fait une proposition que son âge a avancé, il a bien envie d'avoir un enfant, mais bon, ok. On s'est basé sur l'histoire de c'est par amour qu'on va le faire. C'est là que j'ai pris la grossesse. Mais après 4 mois de grossesse, son comportement a commencé à changer. Concernant l'occupation de l'enfant, il ne s'occupe pas.
Malgré leurs douleurs et souffrances internes, ces jeunes filles n'échappent pas à la pression familiale et sociétale. Goli Loudjesson Blanche en a payé les frais.
On me regardait bizarrement, on me jugeait autrement parce que j'ai arrêté l'école à cause de ça. Le rejet de la famille, bon, ma maman n'a pas apprécié et vu que mon papa n'était plus. Moi, en tout cas, j'étais seule. C'est le papa de l'enfant qui m'a motivée à pouvoir garder jusqu'à... S'il n'avait pas été là, je ne sais pas comment ça allait se passer. Parce que j'avais perdu même le sens de la vie.
Souvent seule et sans soutien financier, ces jeunes filles s'adonnent à tout genre de petits boulots afin de subvenir aux besoins de leurs enfants. Asumu Emira.
C'est un moment où mes parents voulaient que je retourne à l'école. Mais là, ils disent, mais qui va s'occuper de mon enfant? Je vendais mes petits chichis, les biscuits, après du pain. Je faisais du pain pour quelqu'un, elle me payait. J'en souffrais beaucoup. Je regrettais beaucoup.
Des épreuves de la vie qui font gagner à maturité la plupart d'entre elles. Tativier Grassin-Tichat.
Avoir un enfant même hors mariage, là, c'est pas facile. Mais tu sais pas si la personne va te prendre au sérieux, ou même tu sais pas si la personne ne va pas te prendre au sérieux. Souvent, ils vont te dire toutes sortes de choses pour pouvoir rester avec eux. Ils vont t'enceinter, faire tout, s'occuper de l'enfant, et puis arriver à un moment, ils vont te laisser. C'est comme je veux dire à mes jeunes sœurs, là. Ils n'ont qu'à s'abstenir. C'est la solution. Toi-même, là, tu cherches ton travail, tu te bats. Garçon, il va jamais faire mal.
Le Centre pour Kids Twin Mother Up a formé à ce jour plus de 170 filles à Abidjan, Alepe et Yamoussoukro. Aïcha Diara, Abidjan, pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.